Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot.
Bonsoir, bonsoir à tous. Merci Olivia Gesbert. Nous voici dans Soft Power jusqu'à 20h depuis le studio 131 de la Maison de la Radio. Depuis quelques années, pas à pas, la Chine est en train de recréer une route de la soie entre l'Asie et l'Europe. Pour cela, Pékin veut construire des milliers de ponts, de routes, de chemins de fer, de pipelines et de ports, même à travers l'Asie centrale et le Moyen-Orient. 40 milliards de dollars d'investissement ont été débloqués l'an dernier pour ce projet global sans précédent, qui est à la fois une arme économique et une arme diplomatique. Ce soir, dans Soft Power, je vous propose de suivre justement cette route de la soie depuis la Chine jusqu'à l'Europe avec sur le terrain, par téléphone, nos correspondants en Chine, en Russie, en Inde ou encore en Turquie. Nous serons également avec Benoît Vidkin, journaliste au Monde, pour parler de la route de la soie au Kazakhstan. Et en studio, à mes côtés, deux invités ce soir. Christian Lechervy d'abord, ambassadeur de France, spécialiste de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient. Vous avez notamment été ambassadeur au Turkménistan. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et puis également dans cette émission, Pierre Aski, ancien correspondant de Libération en Chine, directeur de Rue 89 et chroniqueur de France Culture. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
À 19h10, l'alphabet numérique sera consacré ce soir à l'arc de la censure d'Internet, si on peut dire, un arc qui va de la Chine à la Turquie et qui rassemble, étrangement, si on peut dire, par la Russie ou encore en Iran, qui rassemble des pays qui sont... ont beaucoup axé leur rapport Internet sur la censure. Bref, une route de la soie de la censure numérique. Cette émission, ce soir, est exceptionnellement enregistrée compte tenu des décalages horaires avec l'Asie. Elle est réalisée par Olivier Guérin ainsi que Benjamin Vignal à la technique et elle a été préparée ce soir par Mathilde Wagman. Alors nous partons maintenant sur la route de la soie dans Soft Power jusqu'à 20h sur France Culture. Le projet de route de la soie a été imaginé depuis plusieurs années. Officiellement, le projet s'appelle One Belt, One Road, une ceinture, une route. Le président chinois Xi Jinping l'a officiellement lancé en septembre 2013 lors d'une visite au Kazakhstan. On verra pourquoi le Kazakhstan est un pays central de ce projet. Depuis lors, le comité central du Parti communiste en a fait l'une de ses priorités. L'an dernier, en mars 2015, le premier ministre chinois Li Keqiang a annoncé la création de la Silk Road Company, le fonds d'investissement privé qui portera ce projet. Il a aussi détaillé son ampleur en donnant le chiffre 40 milliards de dollars. Plus encore que la démesure des investissements et du rêve chinois qui pourrait renaître à travers ce projet, ce qui frappe, c'est son nom d'abord du projet, un plan de communication efficace, un logo, une marque, Pierre Aski, qui renvoie à une histoire que nous connaissons tous un petit peu.
Oui, alors le président chinois parle de rêve chinois pour le 21e siècle et il nous ramène à un vieux rêve qui est un mythe, qui est cette route de la soie qui a été la première vraie route de la première mondialisation, on pourrait dire, entre la Chine, donc départ Xi'an dans le centre de la Chine, et qui allait jusqu'aux confins de la Méditerranée, donc dans l'actuelle Turquie, en traversant l'Asie centrale et l'Iran. Et cette route de la soie était une route à la fois commerciale, la première vraie grande autoroute commerciale de l'histoire, mais aussi une route dans laquelle s'engouffraient les guerriers, les prédicateurs, les prêcheurs de toutes les religions de cette époque et qui a façonné pendant un bon millénaire le monde tel qu'il existait bien avant notre époque. Donc on est du deuxième siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du premier millénaire globalement et ça se poursuit encore un petit peu, mais à une époque où la Chine est vraiment l'empire du milieu et où elle façonne le commerce international.
Alors historiquement, il y a eu plusieurs routes de la soie, symbole mythique de l'Orient. Vous le disiez, Pierre Aski, il s'agissait en fait de différents chemins empruntés par les commerçants pour faire transiter les marchandises de l'Asie vers l'Europe et ce depuis l'Antiquité. La version classique, orthodoxe, la présente comme une décision d'un empereur chinois de la dynastie des Yang, avant Jésus-Christ donc, qui envoya son émissaire en Europe, itinéraire réemprunté depuis par tous les marchands orientaux. Alors, avec ses caravanes d'épices, de tapis perses, de pierres précieuses, de tissus et d'abord de soie, d'où son nom, l'itinéraire a été emprunté par les Romains comme par les Ottomans, par les Arabes et les Indiens parmi de nombreux peuples. C'est une route qui fait 6500 km de long, selon d'ailleurs les endroits où on l'a fait partir et où on l'a fait arriver. La route part plutôt de l'est de la Chine, pays qu'elle traverse sur près de 4000 km, donc c'est une route d'abord chinoise, avant de bifurquer vers des pays qui s'appellent aujourd'hui, et ils ont eu d'autres noms à d'autres époques, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Syrie, pour rejoindre la Méditerranée. Et si les tracés ont varié en fonction des empires et des époques, il n'y a donc pas une seule route de la soie, mais il y a en même temps un seul rêve, hein, les féeries, les bazars, les vertiges que Pierre Loti, par exemple, parmi d'autres écrivains, a décrit, car la route croise, vous l'avez dit Pierre Aski, les guerres, les frontières, les limites physiques, et pour commencer, elle traverse frontalement, ou parfois en la contournant, la chaîne de l'Himalaya. Christian Lechervy, comment est-ce qu'on passe d'une histoire aussi riche à un projet aussi pragmatique, celui des Chinois aujourd'hui ?
Historiquement, effectivement, c'est un réseau de routes qui s'est structuré petit à petit à partir de la période du paléolithique. Et comme on le rappelait à l'instant, c'est une route qui fonctionnait dans les deux sens. C'est-à-dire que l'on a vu y transiter les savoir-faire sur le bronze, sur la soie, mais aussi sur la poudre à canon, sur l'imprimerie, sur bien d'autres...
Les épices, etc.
Alors, les épices sont essentiellement...
La partie plutôt indienne.
La partie indienne et la route maritime. C'est la route qui va être privilégiée au fond à partir du XIVe siècle et l'effondrement du seul empire qui a réellement régné sur l'ensemble de l'espace eurasiatique, qui est l'Empire mongol. À partir du XIVe siècle, il faut trouver des voies alternatives, d'où les routes maritimes qui vont commercer avec l'Asie du Sud-Est, que ce soit l'Indonésie d'aujourd'hui ou le Vietnam. Cette route, c'est aussi une occasion d'y bâtir des espaces urbains, structurer les espaces urbains. Certains nous ont été légués avec leur magnificence. C'est le cas de Samarkand aujourd'hui en Ouzbékistan. Ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que cette route a apporté aussi des idées, des religions d'ouest en est. C'est le cas du judaïsme, c'est le cas du christianisme, c'est le cas de l'islam, mais aussi de toutes sortes de philosophies. Alors aujourd'hui, quand le président Xi Jinping évoque la route ou les routes de la soie, en réalité, il veut donner plusieurs signaux. Il veut donner d'abord un signal que la montée en puissance de la Chine, elle a d'abord une vocation économique. Et que par là même, faire référence aux routes de la soie, c'est une forme apaisante. Deuxième élément, c'est une volonté d'exprimer une interconnexion, notamment au travers des infrastructures qui font en réalité défaut, puisque si l'Empire mongol s'est effondré à partir du XIVe siècle, en réalité, à partir de cette date, on voit bien que accéder à la région est difficile, difficile en termes de sécurité, difficile aussi en termes géographiques. Il faut traverser plusieurs déserts, dont certains sont parmi les plus rudes de la planète. C'est le cas notamment du désert du Taklamakan. Il y a aussi la volonté, je pense, du côté chinois, d'inventer un narratif sur la puissance.
Une histoire,
un récit collectif. Et au fond, on fait appel à des mythes dont il faut bien voir que, même s'ils ont été nourris aux écrits de Marco Polo, l'identité de route de la soie, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Ça date en réalité du 19e.
Oui, c'est une expression moderne et d'ailleurs occidentale, plaquée, presque par orientalisme, sur un tracé bien antérieur à son nom.
C'est un géographe allemand, Ferdinand Ranschhofen, qui invente ce concept à partir de 1877, à un moment où il y a un grand jeu dans l'espace eurasiatique, grand jeu auquel participent les historiens et plus encore les archéologues.
Alors Pierre Aski, on a un bon résumé au fond de ce qu'est un soft power chinois.
Oui, tout à fait. Et en fait, on a ce concept marketing de route de la soie qui est une façon pour la Chine de se trouver une raison d'être face à l'Amérique. La mondialisation made in America, elle est simple à comprendre. C'est Hollywood, c'est un certain nombre de concepts et de marques aussi qui sont aisément captables aujourd'hui dans l'ensemble de la planète. La Chine est devenue une puissance mondiale. mondiale au cours des 15 dernières années. Elle est présente aujourd'hui sur tous les continents sans avoir ce narratif, comme on disait il y a quelques minutes, qui accompagnait cette expansion qui génère, il faut bien le dire, aussi des craintes d'hégémonie ou de surpuissance dans le monde. Avec la route de la soie, la Chine s'est inventée un concept qui permet de rassurer et de dire que c'est du win-win, c'est-à-dire on vous amène notre technologie, nos produits, etc. Mais ça va dans les deux sens. La route de la soie, c'est effectivement dans les deux sens. Et c'est le message numéro un qu'essaye de véhiculer la Chine dans cet enjeu qui est à la fois économique. La Chine a besoin aujourd'hui de ce poumon, de cet oxygène que va lui donner cette expansion. Et c'est aussi un concept stratégique parce que la Chine ne redoute rien de moins que l'encerclement. Et donc là, elle brise l'encerclement dont elle pense être victime.
Alors ça va dans les deux sens, cette route de la soie, mais c'est aussi deux routes. Je vous propose de parler des deux l'une après l'autre. Commençons par la route, le tracé terrestre. Ce tracé reste en débat, il n'est pas totalement arbitré, mais il devrait partir de la province chinoise du Xinjiang, hein, qui connaît de nombreuses tensions ethniques d'ailleurs, ce qui peut-être ne simplifiera pas le départ de cette route, à rejoindre le Kazakhstan, l'Asie centrale, le nord de l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie, qui, à partir de là, atteindre l'Europe. Le tracé continuerait en Bulgarie, en Roumanie, en République tchèque et en Allemagne, avant de rejoindre, on ne sait trop comment d'ailleurs, Venise, qui est un symbole. Commençons donc par ce tracé terrestre. Quelle est la logique? Quelle est l'idée? Est-ce que c'est une réorientation de la politique chinoise vers l'intérieur du continent, vers l'Asie centrale, plutôt que vers le Pacifique et l'Est?
Alors il y a déjà un précédent relativement récent qui préfigure cette structuration. C'est toute la stratégie chinoise depuis le début des années 2000 pour sécuriser le Xinjiang. Le Xinjiang, vous l'avez dit, c'est cette région ouest de la Chine peuplée par les Ouïghours, qui sont un peuple turcophone, qui est aujourd'hui au cœur de toute l'insécurité qu'il y a en Chine autour de la résistance des Ouïghours face à la mainmise des Han, donc le peuple majoritaire en Chine. Et depuis le début des années 2000, la Chine a monté une structure qui s'appelle l'Organisation de sécurité de Shanghai, qui réunit la Russie, la Chine et les pays d'Asie centrale, avec une véritable ambition sécuritaire au début, qui était de bloquer tout l'arrière-pays pour la rébellion ouïghour. Ensuite, il y a eu une dimension économique très forte, et ça a été le début d'une expansion chinoise en Asie centrale.
Christian Lechervier, vous êtes ambassadeur de France, spécialiste de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient. Lorsqu'on regarde cette route terrestre, cette route de la soie, l'un des objectifs plus ou moins avoués de ce tracé est peut-être de réintégrer des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, l'Irak, l'Asie centrale, et à terme peut-être l'Iran, dans l'économie marchande globale, en y reconstruisant d'innombrables infrastructures défectueuses depuis des années de tensions. En clair, réussir avec l'économie, ce serait ça la logique chinoise, là où les Américains ont échoué avec le militaire.
La première dimension, elle est la conséquence de l'effondrement de l'URSS. L'effondrement de l'URSS et des frontières opaques a permis aux populations de se retrouver. Comme le disait à l'instant Pierre Aski, les populations turcophones sont des deux côtés du Xinjiang et en Asie centrale. Et évidemment, dans cette période, s'est accrue une inquiétude face à la montée des groupes islamiques radicaux que l'on a vu opérer en particulier en Ouzbékistan, dans la vallée de Fergana, ou depuis l'Afghanistan. Et donc, la Chine s'est inquiétée de cette montée en puissance et des échos que pouvaient avoir ces acteurs islamiques sur son propre territoire, au Xinjiang, voire même au-delà. Alors, l'effondrement des frontières, l'effacement stratégique de la Russie dans la région, a été l'occasion, au fond, pour la Chine, de nouer de nouveaux partenariats avec ses voisins. Et ces partenariats se sont faits, au fond, sur trois objectifs. Faciliter le commerce, permettre aux commerçants Han, mais aussi Ouïghours, de pouvoir exporter vers des pays demandeurs de biens de consommation. De ce point de vue-là, le Kazakhstan est une priorité parce que c'est le plus grand marché d'Asie centrale. Mais pour exporter, il faut aussi des infrastructures de transport. Et au fond, accélérer le transport a probablement été un des objectifs de la Chine et le demeure. Alors, cela passe non seulement par la construction ou la modernisation d'un certain nombre de routes. Cela passe aussi par le développement d'infrastructures nouvelles en matière de transport ferroviaire, et plus encore, pour correspondre aux besoins énergétiques gigantesques de la Chine, importer du gaz et du pétrole dont les ressources sont relativement abondantes dans tout ou la quasi-totalité des pays d'Asie centrale.
Pour terminer cette assez longue et riche introduction sur la route de la soie, Pierre Aski, venons-en au tracé maritime. La deuxième route imaginée, c'est une route baptisée 21e siècle Maritime Silk Road, qui empruntera quant à elle les mers. La Chine a rarement été dans l'histoire une grande puissance maritime, mais elle tente sa chance. La route serait donc de l'Asie à l'Europe également. Le tracé partirait des grands ports de la mer de Chine, en particulier Guangzhou ou Canton, suivrait la Thaïlande, le Vietnam, la Malaisie, croiserait Singapour, pour élongerait l'Indonésie avant de rejoindre, en passant ou pas par l'Inde, tout le débat est là, et via l'océan Indien, donc le Sri Lanka, la mer Rouge, le Golfe et enfin le canal de Suez et donc la Méditerranée. Un autre tracé pourrait faire un détour par l'Afrique, notamment le Kenya. Les deux routes, en tout cas, celle des mers et celle des terres, se rejoindraient à Venise. En ce qui concerne ce tracé maritime, Pierre Aski, quel est l'objectif en la matière de la Chine?
Alors, d'abord, il faut rappeler que la Chine, effectivement, n'est pas une grande puissance maritime, mais elle a failli l'être. Parce qu'elle a connu dans son histoire un moment où un siècle avant la conquête, la découverte de l'Amérique par les Européens, les Chinois avaient une flotte qui était partie à l'aventure, à la découverte du monde, qui était arrivé aux confins de l'Afrique orientale ou dans un certain nombre de pays d'Asie comme la Malaisie actuelle, etc., sous la direction d'un amiral qui s'appelle Zhang He, qui est un ancien eunuque originaire du Yunnan, musulman, et qui a construit une flotte fabuleuse pour l'époque. Et puis, la Chine s'est refermée. La flotte a été détruite. On a détruit le savoir-faire de ces grands navires et on a refermé les frontières de la Chine à cette époque. Et donc aujourd'hui, on renoue avec cette histoire très riche. Et de fait, la Chine a énormément investi. Si vous prenez les développements de l'armée chinoise au cours des 20 dernières années, la marine chinoise est celle qui a obtenu les plus grands crédits. La Chine a déjà un porte-avions et elle est en train d'en construire un deuxième. Elle s'est dotée d'une flotte de sous-marins, etc. Elle a énormément développé et on voit bien aujourd'hui les tensions en mer de Chine du Sud avec les Américains. C'est un enjeu stratégique majeur, le contrôle des voies maritimes et c'est toute la logique de cette nouvelle route.
Vous écoutez Soft Power ce soir, notre émission est entièrement consacrée à la route de la soie, la route qui va de l'Orient, l'Extrême-Orient jusqu'à l'Europe, partant de la Chine sur France Culture jusqu'à 20h.
Soft Power, l'alphabet numérique.
L'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, de ses expressions, ses tendances ou ses évolutions. Et ce soir, nous évoquons ce qu'on pourrait appeler l'arc de la censure numérique. Avec vous, Pierre Aski, ancien correspondant de Libération en Chine, directeur de Rue 89 et chroniqueur ici à France Culture. Depuis quelques années, la Chine est en train de lancer une route de la soie. C'est un projet terrestre et maritime qui consiste à relier l'Asie à l'Europe sur le plan économique, mais aussi stratégique. Elle va construire des milliers de ponts, de routes, de chemins de fer et même de ports à travers l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Armes économiques et diplomatiques, 40 milliards de dollars d'investissement ont été déjà débloqués. La route de la soie est aussi un projet numérique, une arme, on peut dire, du soft power. Elle vise à s'appuyer sur le hard power chinois, c'est-à-dire l'informatique, les câbles en fibre optique terrestre ou sous-marin, les serveurs, la fabrication d'ordinateurs et de smartphones pour nourrir l'influence du pays et son soft power. Est-ce qu'on peut dire, Pierre Aski, que la route de la soie est aussi finalement une route digitale?
Oui, tout à fait, parce que la Chine a mis l'accent depuis une vingtaine d'années sur le développement de ce secteur économique. Elle a construit des entreprises absolument majeures aujourd'hui dans le monde, comme Huawei, qui est un des équipementiers télécoms aujourd'hui importants dans le monde et qui sera le fer de lance de cette route de la soie numérique en termes d'installation, de réseaux, de fibres optiques, de câblage, etc. Elle a le numéro un mondial aujourd'hui des ordinateurs personnels avec Lenovo qui a racheté la branche PC d'IBM il y a quelques années et qui s'est maintenu à ce niveau de production. Elle a des opérateurs télécoms absolument majeurs comme China Mobile, qui est le plus gros opérateur mobile au monde en termes d'abonnés. Donc on a le développement au cours des 20 dernières années de cette infrastructure interne chinoise. C'est le plus gros marché des télécoms au monde. On est à près de 700 millions de
Chinois connectés à Internet.
Chinois connectés à Internet, une population mobile, des entreprises comme Alibaba, etc., qui sont des fournisseurs de services absolument géants, y compris à l'échelle mondiale, et qui ne demandaient qu'une seule chose, c'est cette expansion, trouver les débouchés.
Ça veut dire que le marché intérieur chinois, vous avez dit 700 millions de Chinois connectés, on devrait vendre, autre chiffre incroyable, 500 millions de smartphones cette année en Chine, donc c'est non seulement des téléphones, mais c'est des smartphones connectés à Internet, tout ça selon les chiffres diffusés par le New York Times. Ça veut dire que le marché intérieur est sinon saturé, du moins largement mûr. Ça veut dire qu'il faut s'ouvrir, et le plus facile, c'est de s'ouvrir à côté, aux proches. On ne va pas le faire vers le Japon, ni vers la Corée, qui sont extrêmement en avance sur le numérique. On le fait vers l'Asie centrale, le Moyen-Orient.
En fait, c'est une stratégie qu'ont suivi les Chinois précédemment. C'est qu'on commence par construire le marché intérieur, qui est géant, et donc on construit des entreprises solides et qui maîtrisent leur technologie. Ensuite, on attaque les pays secondaire, c'est-à-dire on ne va pas directement aller conquérir l'Amérique ou l'Europe de l'Ouest. On commence par des pays périphériques comme le Pakistan, l'Égypte, etc., où on construit une base internationale solide. Et c'est ce que la Chine est en train de faire aujourd'hui. Elle se construit une sorte d'interland de clients de ces entreprises de technologie, où ces marques vont devenir absolument dominantes. On a vu, y compris en Inde, les entreprises chinoises sont en train d'investir énormément d'argent. Xiaomi, par exemple, qui est un des nouveaux acteurs fabricants de téléphones portables, c'est le Apple chinois, y compris dans son mode de communication, vient d'investir $1 milliard en Inde pour développer sa production et sa commercialisation.
Alors, si on suit cette route de la soie, qui est aussi une route numérique, on s'aperçoit que en chemin, on va partir de la Chine, on va croiser la Russie, peut-être le Pakistan, l'Iran, la Turquie. Bref, cette route de la soie, y compris dans sa version maritime avec le Vietnam et Singapour, réunit des pays qui tous, à des degrés divers, censurent, en tout cas ne sont pas tout à fait pluralistes en ce qui concerne la presse et en particulier Internet. Est-ce qu'on peut dire que c'est un véritable arc de la censure numérique qui risque de se dessiner, une sorte de route de la soie de la censure numérique ?
Oui, je pense, parce que il y a l'aspect économique et il y a l'aspect politico-stratégique en permanence pour la Chine. Et la Chine incarne un autre modèle, qui est un modèle autoritaire de développement. Et en particulier par rapport à Internet, qui est considéré depuis le début par la Chine comme à la fois un enjeu stratégique, économique, mais un enjeu de contrôle pour garder la maîtrise des développements politiques. La Chine est en train de mener une offensive à l'échelle mondiale pour changer la gouvernance d'Internet. Elle essaye de reterritorialiser, de nationaliser la gouvernance d'Internet, là où elle est aujourd'hui déléguée à des acteurs non étatiques et américains en l'occurrence. Le gouvernement chinois organise désormais chaque année un sommet d'Internet sur son territoire. Le dernier a eu lieu en novembre avec la présence du président Xi Jinping qui montre l'importance qu'ils accordent au sujet, avec cette idée effectivement de développer un modèle de contrôle. Et là, les pays qui sont traversés par cette route de la soie numérique partagent avec la Chine la volonté à la fois de se développer, d'accéder à la technologie, mais de ne jamais perdre le contrôle des contenus.
Pierre Aski, pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, en particulier sur Twitter. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour une émission consacrée à la route de la soie stratégique, politique et numérique. On l'a vu, on se retrouve pour suivre cette route, partir sur la route à travers un certain nombre de pays avec nos correspondants sur le terrain, juste après Shelter from the Storm, Bob Dylan.
T'was in another lifetime, one of toil and blood. When blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And
And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel at death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was a little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
Un extrait de Shelter from the Storm de Bob Dylan, le titre qui clôt le film de Danny Boyle, Steve Jobs, qui sort le 3 février en France. Film intéressant et déstabilisant, écrit par Aaron Sorkin, qui avait signé, on s'en souvient, à la Maison Blanche, The West Wing, l'une des meilleures séries télévisées politiques de l'histoire. Dans Steve Jobs, un biopic consacré à la vie du fondateur d'Apple, on entre au cœur de la créativité informatique. Le film, parfois lassant et déconcertant, décortique malgré tout les contradictions du talent et montre l'extrême force et en même temps l'extrême fragilité des grands hommes. Michael Fassbender est superbe dans le rôle de Steve Jobs et la chanson de Bob Dylan, donc pour clore ce film, est presque magique. C'est Soft Power jusqu'à 20h, magazine des industries créatives et du numérique de France Culture, et vous pouvez nous retrouver en podcast, podcast Soft Power ainsi que podcast L'Alphabet Numérique, tout ça sur le site franceculture.fr.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Deuxième partie de cette émission, Soft Power, ce soir consacrée à la route de la soie. On a évoqué cette route et aussi ses deux tracés, tracé maritime et tracé terrestre. Je vous propose maintenant de partir sur la route et d'essayer à travers un certain nombre de pays de voir comment les débats se passent, comment la route est accueillie et comment elle peut susciter aussi des craintes. On le verra avec la Chine. Je vous propose de suivre un peu la route et de partir tout de suite en Chine, en l'occurrence à Hong Kong, où Jean-Pierre Cabestan, professeur, directeur du département de sciences politiques et de relations internationales de l'Université Baptiste de Hong Kong, est avec nous par téléphone. Bonsoir Jean-Pierre Cabestan.
Bonsoir.
Alors vous êtes, si on peut dire, au départ de la route, notamment de la route maritime, route de la soie. La Chine prévoit d'investir massivement dans des ports à containers, l'alpha et l'oméga du commerce maritime mondial désormais. Quelle est la logique, selon vous, de cette route de la soie pour la Chine ?
Alors, comme vous l'avez indiqué, il y a deux routes. Hein. Il y a un corridor terrestre et une route maritime de la soie. Je crois qu'il y a plusieurs ambitions. Il y a une ambition d'abord économique, qui est d'accroître les échanges économiques entre, disons pour faire simple, l'Eurasie, le Moyen-Orient, la côte orientale de l'Afrique, l'Asie du Sud et la Chine. Et puis, il y a un volet beaucoup plus géostratégique et politique qui a pour but à la fois d'accroître l'influence de la Chine dans toutes les zones, de profiter du retrait ou de la moins grande activité américaine ou même occidentale dans ces pays, et donc d'accroître l'influence et la puissance chinoise. Donc il y a bien deux aspects très, très importants.
Oui. Sur le plan économique, oui, le projet s'adossera aussi à la nouvelle banque d'investissement chinoise, dite Asian Infrastructure Investment Bank, ou AIIB. Oui. C'est l'idée de faire du yuan la monnaie de référence pour les pays de la route de la soie. On sait que le renminbi est déjà fortement utilisé en Mongolie ou au Kazakhstan, par exemple. Il y a cette dimension-là dans le projet, vous pensez ?
Oui, les prêts accordés par cette banque d'investissement asiatique, d'investissement pour les infrastructures, seront principalement en dollars américains, mais ils pourront également être en yuan, notamment pour les pays qui ont des accords de swap avec la Chine en yuan. Cette route de la soie compense une baisse d'activité économique à l'intérieur, en Chine, et donc a pour but de redynamiser les grands groupes chinois à l'extérieur.
Pour terminer sur ce registre, on est par téléphone avec vous depuis Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan. Je rappelle que vous êtes professeur et directeur du département de sciences politiques et de relations internationales à l'Université Baptiste de Hong Kong. Est-ce que la crise économique chinoise actuelle peut perturber un projet qui s'inscrit forcément dans le long terme ?
Alors, pour l'instant, ce ralentissement chinois ne l'a pas perturbé. Mais évidemment, les grandes, les enveloppes et les annonces importantes sur le plan financier fait par la Chine vont probablement être réduites à la baisse. Je dois ajouter que la Chine a encore d'importantes réserves en devises, environ 3 500 milliards de dollars américains. Et donc, elle pourra, si elle le souhaite, et notamment si elle souhaite financer des projets remportés par des entreprises chinoises, elle pourra, je pense, en tout cas, tenir un certain nombre d'engagements.
Merci infiniment, Jean-Pierre Cabestan. Je rappelle que vous étiez par téléphone depuis Hong Kong. Pierre Aski, vous êtes directeur de Rue 89, ancien correspondant de Libération en Chine. Christian Lechervy, vous êtes ambassadeur de France, spécialiste de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient. Peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit, Pierre Aski?
Oui, Jean-Pierre Cabestan a fait allusion aux relations avec les États-Unis, parce que je pense que c'est quand même un enjeu central dans l'arrière-pensée.
Oui, comment Washington réagit à ce projet, finalement?
Vu de Pékin, l'Asie ressemble à une tentative d'encerclement de la Chine, de containment par les Américains. Et effectivement, vous voyez une présence américaine en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, aux Philippines,
en
etc.
Inde.
Et cet arc de cercle est vu comme une menace par la Chine, qui, par le biais de l'économie, de son extraordinaire puissance de déploiement économique, est en train de briser cet encerclement. Je pense que c'est la dimension quand même centrale dans la toile de fond de ce projet.
En même temps, Christian Lechervy, on a l'impression que Washington, qui ne peut pas totalement adhérer à ce projet, malgré tout approuve une initiative, en particulier si elle passe par l'Afghanistan et le Pakistan, parce que ça réintroduirait du commerce et de la paix dans une zone menaçante pour la sécurité régionale. Comment vous voyez l'attitude des Américains sur cette route de la soie?
Il y a effectivement la conviction que plus de développement économique, c'est s'assurer non seulement la paix sociale, mais aussi le meilleur moyen pour lutter contre l'islamisme politique le plus radical. Il y a objectivement des déficits de capacité, d'infrastructure dans cet entre-deux, entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient. Et c'est ce que la Chine cherche aussi à combler. Je ne crois pas qu'il faille opposer route maritime à route terrestre. D'ailleurs, les investissements réalisés dans les ports visent justement à interconnecter ces deux routes. Les routes terrestres, elles ont pour vocation première de délester une partie du fret aujourd'hui acheminé par voie maritime. Et c'est aussi une manière d'essayer d'accélérer les exportations. Aujourd'hui, pour aller de Shanghai à Rotterdam, par la voie maritime, il faut à peu près un mois. Par la voie terrestre, à commencer par la voie ferroviaire, il faut de l'ordre de 3 semaines. Mais au cours de ces 3 semaines, 40% du temps est consacré à passer les frontières. Et donc, on voit bien qu'un des objectifs dans les accords bilatéraux, multilatéraux avec l'Asie centrale, il s'agit de fluidifier aux frontières les passages. Enfin, il y a la voie routière. Aujourd'hui, de Chine vers l'Europe occidentale, il faut à peu près une quinzaine de jours. Et donc, c'est tout ce développement qui assure de l'emploi sur la périphérie chinoise, qui est probablement celle qui est la plus menacée par le ralentissement de la conjoncture macroéconomique de la République populaire. Et puis, il s'agit aussi de s'assurer des marchés export, même s'il ne faut pas les exagérer. En tout cas, pour l'Asie centrale, ce sont des micro-marchés, parce que ce sont des pays aussi qui sont très peu peuplés, même si certains d'entre eux, le Kazakhstan, le Turkménistan, ont des ressources naturelles qui leur permettent, je dirais, de répondre à leurs besoins.
Marc Crépin est correspondant permanent de Radio France à Moscou, et on va avec lui à Moscou, puisque la route de la soie, qui ne devrait pas transiter directement par la Russie, pose quand même, met la Russie au centre du jeu, car la zone cyrillique, comme on l'appelle parfois, est concernée. La route de la soie va croiser la zone d'influence majeure de la Russie. Marc Crépin, vous êtes correspondant à Moscou. Comment est-ce que le gouvernement russe réagit à cette expansionnisme chinois qui ne dit pas forcément son nom?
Dans un premier temps, je dirais, contre mauvaise fortune, bon cœur, tout cela était enveloppé à l'origine dans un discours du Kremlin très optimiste et apaisant. Mais voilà, aujourd'hui, ça va vraiment mal ici en Russie, sur le plan économique, et disons géopolitique, ça ne va pas bien non plus. Quand les Chinois ont lancé ce projet en septembre 2013, tout semblait parfait dans l'économie russe. Vladimir Poutine et son équipe de conservateurs au pouvoir étaient tranquilles. Poutine lui-même lui-même, venait d'entamer son troisième mandat et en principe il est là jusqu'en 2024. Mais deux phénomènes sont venus, je dirais, bouleverser les certitudes des politiciens russes vis-à-vis de la Chine. La crise ukrainienne, d'une part, et puis la baisse du prix du baril, avec comme conséquence un rejet du Kremlin par les pays occidentaux, et donc l'isolement de Vladimir Poutine, et puis une désorganisation de l'économie russe, et ça va vraiment de plus en plus mal. Alors, quoi de mieux à ce moment-là que de se tourner vers l'Asie, vers la Chine surtout? On voyait les visites des ministres des deux pays se multiplier, celles des deux chefs d'État aussi, dans chaque pays. On promettait à l'autre de passer de grandes alliances diplomatiques, on se lançait dans de grands projets industriels. Et puis on a vu aussi, c'était un peu l'apothéose, le 9 mai dernier, au cours de la gigantesque mise en scène du 70e anniversaire de la victoire contre le nazisme, un des rares chefs d'État qui a fait le déplacement sur la place Rouge, eh bien, c'était le président chinois. Alors, à chaque rencontre, on évoquait la route de la soie, et chacun disait à chacun que les Européens et les Américains allaient voir ce qu'ils allaient voir. Mais je dirais que très vite, l'enjeu réel de cette affaire est apparu. Pour les Russes, c'était assez clair. Qui va dominer cette région d'Asie centrale, ex-empire soviétique, ou en tout cas ex-zone d'influence, qu'on dit aujourd'hui zone d'intérêt de la Russie, en connexion, donc, vous le disiez depuis le début de l'émission, en connexion avec l'Europe et le Moyen-Orient, est-ce que ce sera la Russie ou est-ce que ça va être la Chine? Eh bien, on peut dire que la Chine a une longueur d'avance, et c'est elle qui décide, notamment grâce à sa prodigieuse capacité d'investissement. Et puis, on voit aussi que derrière les sourires, les Chinois ne se sentent plus très attirés par le modèle que leur propose Vladimir Poutine économiquement et politiquement. Un expert commentait la semaine dernière cette affaire. Il disait que Vladimir Poutine s'est fâché à peu près avec tous ses voisins et qu'il ne comprend rien au capitalisme. Et ce n'est pas du tout le cas des Chinois. L'économie russe est en détresse. Vous le savez, les recettes budgétaires tirées du pétrole et du gaz ont été divisés par 4 en 2 ans. Et en dehors de projets lancés il y a longtemps, la Russie n'a plus vraiment les moyens de séduire Pékin et de participer de façon conséquente à la route de la soie.
Marc Crépin, correspondant permanent de Radio France à Moscou, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit, en particulier sur le rôle de la Russie par rapport vis-à-vis de cette route de la soie. Christian Lechervy, vous êtes ambassadeur de France.
La Russie s'inquiète de l'influence croissante de la Chine sur l'Asie centrale et singulièrement sur 3 pays. Le Kazakhstan, n'oublions pas que le nord du Kazakhstan est peuplé majoritairement de populations russes. C'est vrai aussi sur le développement d'une influence au Kyrgyzstan et au Tadjikistan. Cette influence, elle est de nature politique, elle est de nature économique, et puis il faut le dire aussi, elle se traduit par des migrations qui changent un certain nombre d'équilibres démographiques. La Russie s'inquiète aussi parce qu'il y a d'autres routes qui sont tout aussi importantes.
Potentielles.
Certaines sont déjà relativement matérialisées. C'est le cas des routes de la steppe qui relient de manière plus dense la Chine à la Mongolie et par là même à la Russie. Et la Mongolie, de ce point de vue-là, est un espace de compétition. L'année dernière, une semaine après la visite de Xi Jinping à Oulan-Bator, on voit le président Poutine se rendre lui aussi en Mongolie et annoncer la signature d'un certain nombre d'accords qui porte non seulement sur les infrastructures, mais aussi l'accès aux ressources naturelles.
Mongolie qu'on connaît peu, mais qui est une sorte de pays pré-émergent qui se développe de manière rapide.
En tout état de cause, c'est un des enjeux de puissance entre la Chine, la Russie et aussi la Corée. On observe la même chose sur la Corée du Nord. À un moment où les relations entre Pékin et Pyongyang se dégradent, les officiels russes se rendent à Pyongyang, on invite le nouveau dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à se rendre aux festivités du 70e anniversaire. Il déclinera in fine, mais on signe des accords en matière de pétrole, on signe des accords pour accéder au port nord-coréen et accéder par là même au Pacifique Nord. Et puis, dernier élément, dans ce sentiment d'être encerclé, qui existe aussi en Russie, pas seulement en Chine, l'ouverture des routes du Nord par l'Arctique, où les Chinois ont fait leur premier pas il y a déjà maintenant 2-3 années. Et donc, vu de Pékin, les routes de la soie participent, je dirais, d'un maillage qui peut porter directement atteinte à la souveraineté et à l'influence, et à la souveraineté notamment parce qu'elle se traduit par un développement des relations de plus en plus denses avec l'extrême-orient russe.
Pierinski.
Marc Crépin l'a dit, les Russes ne sont pas compétitifs sur le terrain économique et sur le terrain des infrastructures. En revanche, ils le sont sur le terrain de la sécurité. Or, la sécurité, c'est un enjeu majeur dans toute cette zone et qui dit route, dit sécurisation de ces routes. Et là, la Russie, d'ailleurs, le déploiement de force en Syrie peut participer de cette image, de cette construction d'image, reste une puissance militaire et une puissance sécuritaire extrêmement importante. Et dans le deal entre Pékin et Moscou, ce qu'importe vraiment la Russie, c'est vraiment le côté sécuritaire.
Alors on a parlé d'un autre grand pays, le Kazakhstan, qui est au cœur même de cette route. Benoît Vidkin est journaliste au Monde. Il a publié un long reportage sur la route de la soie au Kazakhstan. Et on l'a interviewé, on lui a demandé quelle serait la place du Kazakhstan dans le dispositif chinois de route de la soie.
Dans ce dispositif, le Kazakhstan doit être une pièce essentielle, une pièce maîtresse. Le projet chinois de route de la soie, les projets chinois de route de la soie, c'est un label un peu fourre-tout qui regroupe des projets déjà existants, d'autres en cours ou bien à réaliser dans un avenir encore assez lointain, mais avec deux volets principaux, un volet maritime, et là le Kazakhstan n'est pas du tout concerné puisque c'est un pays enclavé, et un volet terrestre. Et là, le volet terrestre qui est le plus innovant, le Kazakhstan est central. Il suffit de regarder les cartes. La route la plus directe vers l'Europe, que ce soit celle que les Chinois appellent du Sud, qui ensuite passe par l'Iran, ou celle centrale qui ensuite passe par la mer Caspienne, le Kazakhstan est central. C'est un territoire immense, frontalier de la Chine et sur la route directe de l'Europe. Ça, c'est le premier point, mais le Kazakhstan est central pour les Chinois, pas seulement pour sa position géographique. Il est central parce que c'est un pays très très riche en matières premières dont les Chinois ont besoin, et parce que c'est un pays, je l'ai dit, frontalier. Et dans ce projet chinois de route de la soie, il y a un aspect développement très important. Développement, en fait, les Chinois entendent par là stabilisation, qui est pour eux une valeur essentielle. Et ça consiste en fait à ce que les futures routes empruntées par les camions et les trains dans un sens comme dans l'autre, depuis l'Europe et vers l'Europe, empruntent des routes stables, dans des climats apaisés. Donc là, le Kazakhstan, il s'agit de le développer. Puisque le Kazakhstan est voisin, le devoir de la grande puissance chinoise est de faire en sorte que ses voisins soient développés économiquement et stables politiquement.
Si on parle de stabilisation, ça veut dire que à la base, la région ne l'est pas nécessairement stable. Pourquoi ?
Il y a d'abord un grand jeu avec les Russes sur l'influence dans la région. Les Européens et les Américains sont également un peu présents. Mais le premier facteur d'instabilité, c'est l'islamisme radical. C'est la grande question qui préoccupe tous les gouvernements d'Asie centrale, qui d'une part ont vu une partie de leurs citoyens partir vers l'État islamique en Syrie ou en Irak, et qui sont pour certains frontaliers de l'Afghanistan, et le retrait américain de l'Afghanistan ne les enchante pas du tout. Et les Chinois sont très très conscients de ces questions-là. C'est-à-dire que dans leur projet, par exemple, l'Iran occupe une place importante, l'Afghanistan pourrait occuper une place importante, mais ils n'ont pas encore assez confiance pour y aller franco. Mais donc la stabilité politique n'est pas complètement gagnée dans la région, ou en tout cas elle est source de préoccupation, et elle est source de préoccupation pour les Chinois.
Concrètement, comment ça se traduit les investissements chinois au Kazakhstan ? C'est la construction d'infrastructures, de voies ferrées, de routes ?
Ce que j'ai vu quand la dernière fois que j'ai été sur les lieux de ces chantiers, puisque c'est plusieurs chantiers, j'ai été à la frontière sino-kazakh, et c'est des entrepôts énormes pour faire transiter les marchandises, c'est des voies ferrées, c'est des routes, c'est toutes sortes d'infrastructures, et avec une particularité kazakh vraiment intéressante, qui est que le Kazakhstan a un gouvernement autoritaire, hautement corrompu, mais qui a toujours eu une certaine capacité à avoir une vision de l'avenir, à faire des projets d'avenir. Voilà, donc le Kazakhstan arrive assez finement à s'intégrer dans le projet chinois. C'est-à-dire qu'on peut voir dans certains pays voisins, par exemple comme le Kyrgyzstan, on construit aussi des routes. Mais qui construit des routes, c'est les Chinois eux-mêmes, avec des ouvriers chinois en partie, avec des capitaux chinois. Or, ce qu'on voit au Kazakhstan, c'est pas du tout ça. Le gouvernement kazakh s'est intégré dans le projet, construit lui-même une partie des infrastructures, notamment ce qu'ils appellent, par exemple, ce que j'ai vu, un port sec à Khorgos, qui doit permettre de faire transiter les marchandises. et sur lequel le Kazakhstan espère tirer des dividendes et tirera des dividendes. Il a la puissance économique et la puissance politique pour pouvoir traiter, alors pas d'égal à égal, mais pour avoir pu traiter avec la Chine sur ne pas être simplement un pays de transit, mais avoir un rôle à jouer sur cette route de la soie.
Nous étions avec Benoît Vidkin, interviewé par Mathilde Wagman.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Alors Pierre Aski, route de la soie, qui passe par le Kazakhstan, qui va continuer, on va le voir, traversant d'autres pays. Et on a l'impression que la route de la soie croise une autre route, peut-être plus informelle, à savoir la route de l'islam. Est-ce que ces deux routes sont compatibles ?
C'est un des sujets de préoccupation de la Chine, et en particulier vis-à-vis de la Turquie, qui est l'un des pays centraux de cette équation géopolitique, puisque la Turquie, c'est l'ancien empire ottoman qui est allé jusqu'au Xinjiang. Nous parlions du Xinjiang tout à l'heure, donc cette province
en Chine,
chinoise,
ouais,
qui est l'objet aujourd'hui de préoccupations sécuritaires très fortes. Et la Chine redoute que la Turquie serve de base arrière, à la fois politique, mais aussi potentiellement militaire, aux rebelles du Xinjiang. Et donc, les rapports avec la Turquie sont toujours ambigus, parce qu'il y a d'un côté un gros enjeu avec un pays qui est au passage de toutes ces routes, et aussi avec un pays qui est potentiellement l'allié des ennemis de Pékin.
Alors, nous partons justement en Turquie avec Alexandre Billette, correspondant de Radio France en Turquie. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Comment est-ce que la Turquie s'intègre-t-elle, selon vous, au projet chinois, justement, de route de la soie ?
Bah, écoutez, vous savez, déjà en 2008, donc avant le projet chinois, la Turquie avait mis en place ce qu'elle avait appelé une initiative de la route de la soie. C'était à l'époque beaucoup plus modeste, puisqu'il s'agissait surtout d'harmoniser, par exemple, les systèmes douaniers entre la Turquie, l'Iran, l'Azerbaïdjan et les pays d'Asie centrale. Beaucoup plus modeste, donc, mais ça démontre que la Turquie regarde également dans cette direction. Et en ce qui concerne le projet chinois, je dirais qu'il y a pour la Turquie à la fois de l'enthousiasme et de la méfiance. Enthousiasme parce qu'Ankara sait qu'elle peut tirer un profit considérable avec ce projet, mais méfiance envers les ambitions chinoises, alors que, par exemple, les produits manufacturés chinois menacent déjà les produits turcs et que la balance commerciale entre les deux pays est nettement en défaveur de la Turquie. Malgré tout, la Turquie veut être impliquée dans ce projet. D'ailleurs, le président Erdogan, qui était à l'époque Premier ministre, avait évoqué dès 2010 la volonté du pays d'être en quelque sorte le pivot d'un futur corridor entre la Chine et l'Europe, et plus particulièrement via Istanbul. Et il y a aussi un gros chantier à l'est du pays qui s'intègre totalement à cette nouvelle route de la soie. C'est le chemin de fer entre la ville de Kars, donc à l'est de la Turquie, jusqu'à la mer Caspienne, jusqu'à Bakou en Azerbaïdjan, en passant par la Géorgie. C'est un très gros chantier, c'est une liaison qui devrait être terminée cette année théoriquement et qui pourra transporter à terme 17 millions de tonnes de cargo par an et qui sera donc un maillon essentiel pour la Turquie dans ce projet de route de la soie.
Alexandre Billette, depuis la Turquie, par téléphone, est-ce que pour la Turquie, et en termes de visée stratégique, de sécurité, de défense, la route de la soie permet de se rapprocher de certains alliés ou au contraire de s'écarter de certains concurrents ?
Oui, vous savez, la situation de la Turquie au niveau régional est particulièrement tendue, très mauvaise avec bien évidemment la Syrie de Bachar el-Assad, relations assez mauvaises aussi avec l'Iran, avec l'Irak, la perspective d'adhésion à l'Union européenne qui est pour le moins, on va dire, floue, pour ne pas dire abandonnée, et depuis quelques semaines maintenant encore une crise ouverte avec la Russie après ce bombardier russe abattu par l'armée turque. Donc la Russie est désespérément à la recherche de nouveaux alliés, de nouveaux partenaires. On l'a vu ces derniers mois, plusieurs visites, soit du président Erdogan, soit du premier ministre Davutoğlu, au Qatar, en Azerbaïdjan, au Turkménistan et en Chine, justement, Recep Tayyip Erdogan qui est allé à Pékin avec une centaine d'hommes d'affaires. Donc, certainement, la Turquie regarde à l'Est et pourrait justement se poser comme alternative. Voilà, par exemple, a fortiori, si cette crise entre les deux pays se poursuit, se prolonge, eh bien, la Turquie pourrait vouloir jouer cette carte, notamment avec des pays qui sont plus ou moins, on va dire, en froid avec la Russie, comme la Géorgie, par exemple, ou dans une moindre mesure l'Azerbaïdjan. En revanche, ce n'est pas si simple non plus, puisque par exemple la Turquie a déjà tenté dans les années 90, dès après la chute de l'Union soviétique, la Turquie a tenté de faire une offensive commerciale en direction des pays d'Asie centrale, notamment des pays turcophones qui partagent une certaine proximité culturelle avec la Turquie, mais les Turcs ont rapidement déchanté, notamment parce qu'après 70 années de régime communiste, l'Asie centrale est toujours imprégnée des cultures soviétiques que les Turcs ne savent pas nécessairement lire, en quelque sorte. Difficile aussi parce qu'avec la Chine, eh bien, les relations ne sont pas simples. On l'a vu d'ailleurs notamment ces derniers mois avec la question ouïghour, donc ce peuple turcophone et musulman du Xinjiang, qu'Ankara considère, disons, comme un protégé et dont le sort a causé de très très grandes tensions entre Pékin et Ankara.
Alexandre Billette, correspondant de Radio France, en Turquie, une réaction peut-être, Christian Lechervy, vous êtes ambassadeur de France, spécialiste de l'Asie centrale et de l'Extrême-Orient. On a l'impression que sur ces questions, la Turquie joue un rôle central, alors même qu'un autre grand pays, dont on va parler maintenant, joue un rôle périphérique et pourrait en jouer un plus important dans la dimension notamment de cette route maritime, pour le coup, dans la route qui consiste à pénétrer la mer Indienne, ce qu'on appelle aussi la politique des perles, avec les grands ports de containers, c'est la question de l'Inde. Comment est-ce qu'on pourrait introduire l'Inde dans ce dispositif et ces deux tracés ?
Tout d'abord, les intérêts de la Turquie et de la Chine sont divergents sur la politique énergétique. Les réserves ne sont pas extensibles à l'infini, qu'elles soient de gaz ou de pétrole. L'intérêt de la Turquie, c'est de faire aboutir les gazoducs et oléoducs sur son territoire, pour pouvoir le diffuser vers le marché mondial. L'intérêt de la Chine, il est exactement l'inverse. Il s'agit d'amener la ressource vers l'économie chinoise. Et les pays d'Asie centrale, aujourd'hui, hésitent entre les deux options. On le voit sur le débat sur le Transcaspien ou sur d'autres infrastructures centra-asiatiques. Elles sont divergentes aussi en matière de sécurité. On l'a vu sur la question ouïghour. Encore que on a observé quand même ces dernières années un rapprochement qui n'a pas été sans inquiéter les Américains et les partenaires de l'OTAN quand la Turquie a décidé d'accueillir sur son sol pour des exercices de grande importance les appareils de l'aviation chinoise ou en cherchant à acquérir des matériels de défense anti-aérienne et balistique.
Et elle y a renoncé.
Et elle y a dû y renoncer parce que effectivement les codes de l'OTAN auraient posé quelques soucis. Il y a néanmoins un intérêt commun qui est vis-à-vis de l'Afghanistan et le Pakistan. La Turquie est un partenaire historique de l'Afghanistan. C'est d'ailleurs probablement l'un des tout premiers États à avoir reconnu l'Afghanistan indépendante, à avoir noué des relations très fortes historiquement avec le Pakistan. Je crois que derrière ces intérêts géopolitiques, il y a aussi des intérêts économiques. Il s'agit d'amener vers le sud les ressources en gaz et en pétrole, vers les ports pakistanais et aussi via les ports iraniens.
S'agissant de l'Inde, Christian Lechervy.
L'Inde aujourd'hui est un partenaire effectivement périphérique. Alors, il a des intérêts en matière maritime. La rivalité sino-indienne se cristallise sur la mer d'Andaman, c'est-à-dire cette débouchée de la mer de Chine méridionale vers l'océan Indien. Il y a une rivalité d'influence à l'égard de la Thaïlande, de la Birmanie, du Sri Lanka et du Bangladesh. Il y a le sentiment, au fond, en Inde, que les stratégies maritimes de la soie ou les stratégies terrestres visent à contourner l'Inde. Alors c'est vrai que, de point de vue terrestre, c'est une obligation géophysique. Et il s'agit de contourner la contrainte de la chaîne himalayenne qui court jusqu'à l'Asie centrale, à la frontière turkmino-afghane notamment. Par la voie maritime, effectivement, parce qu'il n'y a pas d'accès à de grands ports aujourd'hui aux intérêts chinois. Or, il y a des investissements conséquents dans la gestion des ports, pas seulement de l'océan Indien, jusqu'en Méditerranée, jusqu'en Europe du Nord. C'est un chaînon manquant pour développer, je dirais, une logistique à l'échelle mondiale.
Carrefour stratégique ou chaînon manquant. On est avec Sébastien Farcy pour terminer cette émission. Sébastien Farcy est correspondant de Radio France Internationale en Inde et en Asie du Sud-Est. Bonsoir Sébastien. Comment est-ce que l'Inde perçoit ce projet, menace ou opportunité?
Il y a d'abord une menace en fait par rapport à ce qui est la partie terrestre qui passe dans sa frontière du nord la plus directe et surtout la plus dangereuse, la plus chaude du Pakistan. Et c'est là où se cristallise vraiment le premier point de tension avec le passage de la prévision du passage donc de cette route de la soie par le Cachemire pakistanais, construire des infrastructures dans ce qui est appelé ici de Pakistan Occupied Kashmir, le Cachemire occupé par le Pakistan, cela est clairement pas possible et farouchement opposé par New Delhi qui considère que si on accepte qu'un projet multilatéral qui implique la Chine traverse cette région, et bien cela viendrait à reconnaître, à entériner cette occupation du Cachemire par Islamabad. Mais il y a aussi, bien sûr, et comme vous le disiez très bien, la partie maritime, qui est une autre manière de contourner l'Inde et de peut-être l'encercler, en tout cas c'est ce qu'on pense ici. Et là, on voit vraiment que c'est le Sri Lanka qui est vraiment le point de tension, le point principal, parce qu'on est à quelques kilomètres seulement des côtes indiennes quand on est au Sri Lanka. Et depuis une vingtaine d'années, même plus, il y a eu un froid diplomatique entre New Delhi et Colombo, et la Chine en a bénéficié. Et comment ils en ont bénéficié? En fait, ils ont investi énormément d'argent en construisant des ports. Le premier, grâce à un investissement de plus de 1,5 milliard de dollars, un énorme port en eau profonde a été construit par la Chine. Il a ouvert en 2012. Donc on voit vraiment qu'il y a des craintes de voir le Sri Lanka tomber aux mains de la Chine, quelque chose qui est en train un peu de changer avec le nouveau président Sirisena. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que malgré ces craintes militaires, peut-être géostratégiques, il y a des avantages économiques. Et l'exemple du Sri Lanka le montre bien, c'est que aujourd'hui le port, le mégaport en eau profonde qui a été ouvert et développé par la Chine, c'est l'Inde qui est le premier à en bénéficier, car il sert au transit de milliers de voitures et d'autres conteneurs en provenance ou à destination de l'Inde, mais qui ne peuvent pas être embarqués directement depuis l'Inde sur les gros bateaux transcontinentaux, car les ports indiens sont engorgés ou ils ne sont pas assez profonds.
Sébastien Farcy, vous êtes correspondant de Radio France Internationale en Inde. Lorsqu'on demande aux Indiens quels sont leurs ennemis, ils répondent à cette formule célèbre. L'Inde a trois ennemis, la Chine. Comment est-ce que la diplomatie indienne peut contrecarrer cette offensive chinoise?
Il y a d'abord une réplique qui a été développée dernièrement, surtout par Narendra Modi, nouveau Premier ministre. Une sorte de réplique au tac au tac pour faire face à cette nouvelle route de la soie. Le Premier ministre a lancé différents projets appelés la route des épices, la route du coton, en reprenant les trajets historiques qui reliaient une trentaine de pays entre l'Europe et l'Inde et que New Delhi aimerait aujourd'hui ressusciter. Cela replacerait l'Inde au centre du commerce international ou régional. Mais j'en ai parlé à quelques chercheurs et l'un d'entre eux m'a dit vraiment que pour l'instant c'était que de la rhétorique. C'est peut-être une mesure d'urgence pour dire que on a un plan alternatif et il n'y a pas vraiment de concrétisation claire de ces projets. On n'y voit pas encore vraiment ni les investissements ni la forme que ça prendra.
Sébastien Farcy, correspondant de Radio France Internationale en Inde. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir de cette route de la soie à travers les analyses de Christian Le Chervier, ambassadeur de France, et Pierre Aski de Rue 89. Merci messieurs, et grâce aussi à nos correspondants et d'autres chercheurs interrogés depuis la Chine, l'Inde, la Turquie et le Kazakhstan. Si vous voulez aller plus loin sur la question de la route de la soie, je vous renvoie à plusieurs ouvrages publiés en français qui nous ont aidés à préparer cette émission. La route de la soie aux éditions Gallimard, paru en 2010. Marco Polo et la route de la soie, c'est un livre signé Jean-Pierre Drège, toujours chez Gallimard, dans la collection Découverte en 1989. François Pernaud, les routes de la soie aux éditions Artemis en 2001, ou encore Edith Huyghe et François Bernard Huyghe, la route de la soie ou les empires du mirage, un livre publié chez Payot en 2006. D'autres ouvrages en anglais sont également disponibles. Tout ça et toutes ces références de ces livres sont disponibles sur Twitter au mot-clé Soft Power et sur notre site franceculture.fr à la page Soft Power. On en reste là pour ce soir. Merci infiniment à nos invités, Christian Le Chervier, Pierre Aski. Vous pouvez vous abonner à nos deux podcasts, Soft Power et l'alphabet numérique, sur le site franceculture.fr. Dans un instant, sur France Culture, vous allez retrouver Secret Professionnel avec Charles Danzig. Il sera 20h. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.